Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Journal des sports, on débute avec du football et les qualifications pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. La Coupe du Monde, que je vous rappelle, vous pourrez suivre en intégralité et gratuitement sur SBS. Et bien ces qualifications, avant de parler de la France, on va parler du Cap-Vert, l'exploit du petit pousset du football mondial. Le Cap-Vert se qualifie pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde. Olivier Prom.
Et c'est l'une des plus belles histoires du football, puisque c'est une première. Le Cap-Vert se qualifie donc pour le mondial au nez et à la barbe notamment du Cameroun. À Praia, dans un stade en fusion, les requins bleus ont dominé Eswatini 3-0, assurant ainsi la première place de leur groupe. 4 longueurs devant les lions indomptables, tenus piteusement en échec à Yaoundé 0-0 par l'Angola. Les Capverdiens au mondial, incroyable pour un pays de 520 000 habitants qui entre dans l'histoire en devenant le plus petit en termes de superficie à rejoindre le plus grand événement sportif de la planète. 10 îles en tout, couvrant 4000 km², 10 îles en fait. Ce soir, les entreprises avaient été autorisées à fermer à la mi-journée pour permettre à chacun de suivre la rencontre et de trembler au cours d'une première mi-temps poussive de leur protégé. La qualification s'est décantée en quelques minutes au retour des vestiaires. Livramento puis Semedo libèrent leurs supporters avant que Stopira, en fin de match, ne scelle le score. Le Cap-Vert, 70e au classement FIFA, rejoint donc le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Ghana sur la route des Amériques. Vous l'avez dit, en juin prochain, le Cameroun reste à quai temporairement en tout cas, car ce nul devrait permettre aux Lions de finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes et donc de les qualifier pour le barrage de novembre.
Voilà donc l'exploit du Cap-Vert pour le continent africain, une superbe qualification qui a déchaîné les foules bien sûr sur l'île du Cap-Vert, donc c'était incroyable à voir. Je vous conseille vraiment d'aller sur les réseaux sociaux si vous souhaitez voir de la liesse populaire. Allez, on continue sur ces qualifications pour le mondial et la France qui bute contre l'Islande 2-2. Antoine Grenier.
Et pourtant, à la 68e minute, les Bleus avaient pensé avoir fait le plus dur, prendre l'avantage enfin 2-1 face à une Islande ultra réaliste. Des Islandais qui n'avaient eu besoin que d'une petite occasion à la 39e pour ouvrir le score. Coup franc concédé par William Saliba. Le ballon cafouillé sur la ligne des 6 mètres par Kamavinga et Paulsen, le défenseur de l'Islande, qui se jette pour glisser le ballon au ras du poteau de Mike Maignan. 1-0, le seul éclair d'une première mi-temps pauvre en occasion, mais qui avait vu les Bleus par Nkunku puis Mateta buter sur le gardien ou un défenseur adverse. 1-0 donc à la pause. Et puis, une réaction d'orgueil française. Peu après l'heure de jeu, Christopher Nkunku, lancé par Lucas Digne, dribble un défenseur et enroule sa frappe du droit dans le petit filet opposé. Pur produit de la formation Bellefontaine, l'ancien parisien égalise 5 minutes avant que Jean-Philippe Mateta ne s'offre son tout premier but en bleu à la réception d'un centre parfait du nouvel entrant, le monégasque Marnessa Kliouche. Un avantage qui n'aura finalement tenu que 30 petites secondes à peu près, puisque sur l'action suivante, Linsson, l'attaquant islandais, conclut une contre-attaque éclair. Ça fait 2-2. Les Bleus laissent ainsi échapper 2 points à Reykjavik et voient revenir l'Ukraine à désormais 3 longueurs dans le groupe D après son succès 2-1 sur l'Azerbaïdjan. La réception des Ukrainiens mi-décembre au Parc des Princes sera donc décisive. En tout cas, elle sera très importante en vue de la qualification pour la Coupe du Monde.
Antoine Grenier donc et la France qui n'est toujours pas qualifiée, qui jouera cette qualification, donc vous l'aurez compris, dès le mois de novembre dans le prochain groupe de qualification. Ce match a frustré plus d'un, notamment l'entraîneur ou le sélectionneur français Didier Deschamps. On l'écoute.
Frustration, je sais pas si c'est de la frustration. Après le deuxième but, voilà,
vous étiez très en colère, vous avez dit chez nos confrères TF1.
Non, on ne doit pas le prendre. À ce moment-là, après avoir égalisé, qu'on se fasse transpercer, mal positionné aussi haut, on avait fait ce qu'il fallait pour mener, le prendre comme ça, même si c'est l'adversaire qui l'a marqué. Mais bon, on a ouvert un peu les portes. Comme en ayant revu plusieurs fois, leur premier but m'énerve aussi un petit peu parce que qu'il y a quand même une faute.
Ça fait beaucoup d'énervement quand même.
Non, m'énerve, mais c'est qu'il y a faute. Après, bon, je vais pas en vouloir à l'arbitre non plus. Il mène 1-0 à la mi-temps sans avoir d'occasion pratiquement. Nous, on en avait pas beaucoup. On en a eu plus en deuxième parce qu'on a réussi à mettre un peu plus de percussion, de vitesse. Et le but que marque Christopher, voilà, c'est sur des actions comme ça ou des centres qu'on a pas mis assez rapidement aussi. On avait fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps en menant, mais bon, voilà, si on pouvait gagner tous les matchs, on fait en sorte, mais il y a des adversaires aussi, et cette équipe d'Islande a confirmé ce soir ce que j'avais vu contre nous et ce qu'ils ont eu aujourd'hui, l'efficacité qu'ils ont eu. Ils ont deux frappes cadrées, deux buts.
Didier Deschamps, le sélectionneur français. On écoute également le joueur de l'équipe de France, Jules Koundé.
C'est de la déception, de la frustration surtout, parce que j'ai le sentiment que on avait fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Je pense qu'on s'est créé sur l'ensemble du match suffisamment d'occasions pour gagner ce match. On avait fait le plus dur et on a un relâchement, on se déconcentre un peu sur ce deuxième but. Et puis ils n'ont pas eu grand-chose. Ils ont eu une demi-occasion sur le premier but et puis ce deuxième but, mais sinon pas grand-chose. Donc c'est frustrant parce qu'on avait envie de faire le plein de points et de terminer ce rassemblement avec 12 points. Mais l'Ukraine avait gagné, dans tous les cas il aurait fallu aller se qualifier en novembre, mais voilà, confiant et que nous allons le faire en novembre. Je pense qu'il faut toujours être exigeant, c'est une bonne chose que le public soit exigeant, même s'il y avait de nombreux absents, des joueurs de qualité, on en a dans cette équipe aujourd'hui, donc on se doit de mieux faire aussi. Je pense que ils nous ont bien gênés en jouant à 5 et on a eu un peu du mal à trouver la faille en première mi-temps parce qu'on était des fois mal positionné. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait beaucoup mieux. On s'est créé encore une fois suffisamment d'occasions, hein, même en première mi-temps. Je pense qu'on a 6-7 occasions franches quand même dans ce match. Donc, c'est pas satisfaisant parce qu'il n'y a pas le résultat et parce qu'on aurait aimé mieux jouer, mais tout n'est pas à jeter.
Jules Koundé, donc plutôt lucide, frustré quand même un petit peu sur le match nul de partout de l'équipe de France dans ses qualifications pour le Mondial. On continue sur le football et le gardien de l'équipe de France, Marc Maignan, s'est exprimé sur l'idée d'avoir un match de la Serie A, le championnat italien, qui se jouera à Perth, probablement en tout début février. Un match du Milan AC contre Bologne et donc le portier du Milan AC, Marc Maignan, n'est pas du tout content avec ses décisions.
Et concernant Adrien, ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, on oublie pas mal de choses. On pense beaucoup à l'aspect financier, mais ça reste un match de championnat italien. Je comprends pas pourquoi il joue à l'étranger. En plus de ça, c'est un match qu'on devait jouer à domicile. Donc, on perd un match à la maison. Et on sait que nos objectifs sont élevés et il faut rien laisser au hasard.
Marc Maignan, donc le gardien de l'équipe de France et également gardien du Milan AC. Allez, un mot de tennis pour conclure ce journal et la très belle histoire du week-end. Valentin Vachereau remporte le Masters 1000 de Shanghai. Une surprise et il jouait devant son cousin dans cette finale du tournoi de Shanghai, Sofiane Amazian.
Jamais un joueur classé aussi bas n'avait remporté un Masters 1000. Valentin Vachereau, premier monégasque à être titré sur le circuit principal, va devoir prendre du temps pour digérer car son épopée chinoise a tout d'une fiction. Mis en difficulté lors des phases de qualification, le joueur de 26 ans a enchaîné les tours et les têtes de série. Personne ne lui résiste, même Novak Djokovic, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem et impuissant en demi-finale devant l'audace du monégasque. Imperturbable, Valentin Vachereau joue le tennis de sa vie comme son cousin dans l'autre partie de tableau, le français Arthur Rinderknecht. Deux cousins très proches dans la vie, pas vraiment programmés à se retrouver en finale d'un des plus grands tournois du circuit. La cousinade a tourné en faveur du plus jeune au terme d'un match éprouvant remporté au meilleur des trois manches. Des larmes ont coulé à la remise des trophées, des deux côtés déchirés entre la fierté et la frustration. Valentin Vachereau vient de se faire un nom et une place parmi les meilleurs au monde, lui, qui deviendra ce lundi 40e au classement ATP.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.